Deezer Originals. Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Speakeasy de Mehdi Maizi, la playlist de ma vie avec Justine Froyoli ou encore Traqué, le podcast où les artistes dévoilent leurs secrets de création.
Bonjour, je suis David Castello-Lopez et vous écoutez SMT, le podcast avec un générique qui commence toujours trop tôt. Bonjour et bienvenue dans SMT, le podcast d'Actu Pop, pour m'accompagner comme chaque semaine le Tom Cruise français, l'homme qui nous montre que ça fait du bien d'être mal à l'aise, l'homme dont parfois on coupe la voix au montage parce qu'il y a trop de vérité dedans, Thomas Croisière. Alors Thomas, de quoi on va parler aujourd'hui ?
J'aurais très bien pu faire le choix de vous parler du remaniement de la nouvelle porte-parole qui, s'il le faut, elle s'en fout, elle ment. Ou même qu'à la fin du mois, Bouteflika, il sera plus président et que le plan de Teresa fut rejeté par son parlement. Mais de quoi on va parler, Dave? De quoi on va parler? De Michael Bébé. De quoi on va parler, Dave? De quoi on va parler? De Michael Bébé. De quoi on va parler, Dave? De quoi on va parler? De Michael Bébé. De quoi on va parler, David? De quoi on va parler ? De Michael Jackson ?
Oui, de Michael Jackson et plus particulièrement de son amour un peu illégal pour les enfants.
Depuis 3 semaines, quand je vois des amis à Paris, ça tombe généralement au bout de 5 minutes. Attends, t'as vu le truc sur Michael Jackson ? Non mais truc de ouf, je suis hyper déçu, c'est un truc de malade. Mais mec, mon premier roulage de pelle, c'était en dansant un slow sur Heal the World. Moi-même, je me souviens de Macaulay Culkin rappant en playback dans le clip de Black or White. Gonna spend my life being a color. Je me souviens comme j'avais ultra envie d'être lui parce qu'il était pote avec Michael Jackson et que Michael Jackson, c'était de très loin la personne la mieux du monde. Mieux d'ailleurs au point qu'il avait même pas l'air d'être du même monde. Quand j'avais 9 ans, je me souviens même de m'être dit « Attends mais c'est fou, Michael Jackson et Michel Rocard, ils appartiennent à la même espèce, genre c'est des gens quoi. » Et je me souviens aussi de son visage de robot tout blanc lorsqu'il a été accusé de pédophilie en 1993. Un robot tout blanc qui pleurnichait en disant que la vie de sa mère il avait rien fait et que c'était horrible parce qu'on avait regardé sa bite. « They served a search warrant which allowed them to view and photograph my body including my penis. » Et je me souviens pourtant que j'étais de son côté, mais genre complètement de son côté, et que je méprisais très très fort les enfants qui avaient osé dire que Michael leur avait touché la bite. Mais depuis 3 semaines, je dois me résoudre à me dire, si Michael Jackson avait été mon pote à l'époque, peut-être qu'il m'aurait demandé de le avec sur Billie Jean ou même de avec Michel Rocard. Tout ça à cause ou grâce au documentaire Living Neverland, dans lequel deux hommes, qui ont aujourd'hui 36 et 40 ans, racontent en détail comment Michael Jackson a abusé d'eux sexuellement pendant des années. Mais alors est-ce que ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est mal de chanter sous la douche, mal de continuer à faire le moonwalk en chaussettes sur le parquet, mal de rouler des pelles à des filles sur Heal the World? Bah, je sais pas en fait.
Alors, qu'est-ce que ce documentaire sur Michael Jackson va changer ? Est-ce qu'on peut toujours écouter Michael Jackson en toute tranquillité, maintenant qu'on sait ce qu'on sait ? Et est-ce qu'on n'est pas tous un peu coupables d'avoir détourné le regard pendant des années ? Aujourd'hui, pour en parler avec moi, Marie-Aldine Girard, elle est rédactrice en chef de 28 minutes sur Arte et co-auteure du best-seller « La femme parfaite est une connasse ». Mathieu Alterman, journaliste à TPMP et sur LCI. Et enfin, Shkid, DJ, chroniqueur dans les émissions No Fun sur Binge Audio et La Sauce sur Ocalm Radio. Il est aussi auteur pour le média Yard. Alors, avant de parler de ce qui fâche, d'abord, j'aimerais que chacun d'entre vous nous raconte un souvenir personnel sur Michael Jackson. Et on peut commencer par vous, Marie-Aline Girard.
Eh bien, j'avais 8 ans et...
Moi, le souvenir personnel qui me vient, c'est un souvenir de défense. C'est un souvenir de moi dans la cour de récréation, en train de prendre sa défense et de façon très virulente, très passionnée. Comment dire ? Le fait de ne pas réaliser que les gens ne comprenaient pas que cette personne était différente des autres et que dormir avec des petits garçons et qu'il ne puisse rien se passer était totalement possible et que l'attaquer était la pire chose au monde. Voilà, ça, c'était mon souvenir d'enfance.
Shkid ?
Moi, je suis né en 90, pour oui, préciser.
Oui. Non, il l'a fait exprès parce qu'il voit que je suis bien plus vieille, c'est pour ça. Vas-y, raconte.
Je ne me permettrai pas. Et ma grande sœur, elle était hyper fan de Michael. Donc, mon souvenir, c'est sa chambre. Il y avait les CD. Il y avait, je me rappelle quand elle a acheté le coffret History. Il y avait des posters de Michael Jackson. Ils étaient plus grands que moi. Et j'avais l'impression que c'était important. J'aimais bien ma sœur, donc j'aimais bien Michael Jackson.
Mathieu Alterman.
Alors moi, je suis de 74, donc j'avais 8-9 ans quand Thriller est sorti. Et mon souvenir, c'est que j'avais mon meilleur copain qui avait ramené des États-Unis la cassette vidéo du clip Thriller quelques jours avant qu'il soit diffusé chez Michel Drucker dans Champs-Élysées. Et il a fait venir tous les gens de la classe. On devait être en CM1, CM2. Et c'était un truc génial, quoi. On a regardé ce clip en mangeant des chocos et en buvant de l'Oasis.
Alors, Marielle Dinger, vous l'aviez dit, vous l'aimiez, Michael Jackson, quand même.
Très, très fort. Mais en fait, je n'arrive pas à imaginer que quelqu'un ne l'aimait pas. Oui. Je pense qu'il y avait une espèce d'unanimité autour de lui. Tout le monde dit et sait que c'est un génie. Et personne qui va te dire non, je crois que ça marchera jamais ce truc-là. Tu vois, je veux dire non, c'est un génie, c'est un des plus grands. Et ça, ça se discute pas en fait. Enfin, moi, j'ai jamais eu à le discuter avec quelqu'un en fait.
Et alors, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu le documentaire ?
Moi, c'est aussi pour ça que je suis venue aujourd'hui, c'est parce que vraiment, j'ai la position un peu de la repentie, de la nécessité de faire mon mea culpa en fait. D'avoir participé comme tous ses fans et comme par exemple une mère qui apprend que son enfant est pédophile. Non, pas lui, c'est pas possible, c'est vous les monstres. D'avoir regardé le documentaire, d'avoir vu aussi le débat qui a suivi, avec notamment cette définition du pédophile qui est redonnée par je sais pas si vous avez vu le documentaire, mais la psychothérapeute le redonne en parlant de l'attraction. On parle pas de pédocriminel, mais de pédophile. Et c'est ressentir une attraction vis-à-vis de ces jeunes garçons. Et en l'occurrence, le terme de pédophile lui convient. C'est-à-dire que ça, on ne peut pas même en débattre. Tout le monde est d'accord, les preuves sont là. Et juste de pouvoir dire ça, c'est quelque chose pour moi de très important.
Oui. Je quitte, vous avez vu le documentaire, j'imagine aussi.
Je ne l'ai pas regardé.
Vous ne l'avez pas regardé.
C'est un choix.
Mais vous savez quand même
de
quoi ça parle. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que personne qui a quand même écouté Michael Jackson dans les années 90 quand il était tout petit?
Je pense que j'ai beaucoup détaché la musique de Michael Jackson et les choses qu'il a pu faire. Je vois pas pourquoi ce serait mon rôle, moi, en tant qu'auditeur ou consommateur, de porter un jugement, en fait. Enfin, ça va rien changer à ma vie de regarder ce documentaire, en fait. Mm-hmm. La chanson, elle va continuer à exister, je vais continuer à la trouver bien. Et je pense qu'il y a des gens dont c'est le métier de juger de ces choses. C'est pas mon métier, en fait.
Mais il y a pas quand même ce truc de, quand on écoute Michael Jackson aujourd'hui, j'ai écouté des chansons depuis déjà, d'avoir ce petit truc de... En fait, avant, c'était juste « Hey !» Et maintenant, c'est un petit truc quand même, il y a un petit astérisque, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, Mathieu Alterman.
Ouais, moi alors, je le ressens pas comme ça, parce que je considère que Michael Jackson, c'est intéressant jusqu'en 87, qu'après, c'est beaucoup moins bien. C'est-à-dire qu'en fait, non mais réellement, pour moi, c'est Off the Wall, Thriller, et un peu Bad, et après, c'est beaucoup moins bien. Et
ne l'écoutez pas, il est sous.
Mais c'est beaucoup
on avait
moins
oublié.
Bien.
On avait oublié qui était cette
pas,
personne.
Tu peux pas comparer Dangerous à Thriller, ça tient pas une seconde la comparaison, quoi. Voilà, y a plus Quincy Jones, c'est pas les mêmes qui jouent. Bon,
la
période.
Je vais faire comme les tweetos là, je vais faire là, je vais pas entendre.
La période qui nous concerne, on parle de pédophilie, elle intervient après. Et moi, j'écoute jamais ses disques.
D'accord, mais donc en fait,
donc j'écoute jamais Dangerous, j'en ai rien à foutre.
Donc quand il faisait de la bonne musique, à votre sens, c'est pas prouvé qu'il était pédophile. Une fois que c'est prouvé qu'il était pédophile, vous avez fait sa musique.
Moi, ce qui m'a intéressé dans le documentaire, c'est qu'il montre c'est un type qui est devenu pédophile, mais à 35 ans, et qu'avant, on connaît aucune plainte, aucune sexualité.
Attends, alors, tu sais que la pédophilie est une maladie. Il n'est pas devenu pédophile du jour au lendemain. C'est quelque chose
il n'était pas passé à l'acte. Alors, il n'était pas passé à l'acte. En tout cas, il n'existe aucune plainte, aucun témoignage de pédophilie jusqu'en 1988, à peu près. Rien. Mais moi, je vais juste rajouter un truc. Moi, j'étais en maison 10 pendant 10 ans. C'est un truc qui se savait. Vous savez, il y a un truc que les gens ont oublié. Alors, je vais vous rappeler un truc. Michael Jackson a été humilié en direct sur MTV en 1996 au Brit Awards, diffusé partout dans le monde, quand Jervis Cocker, le chanteur de Pulp, l'a présenté en étant ivre-mort, en se foutant de sa gueule. Il l'a fait pour venger son meilleur ami qui avait logé Michael Jackson dans son château et qui avait retrouvé des trucs juste à gerber. Et Jervis Cocker, on peut voir les images sur YouTube, se moque de Jackson. C'est la seule fois où Jackson a été humilié devant des caméras en direct et plus jamais il a fait une seule émission directe après ça, d'ailleurs.
D'accord. Que ce soit clair quand même, est-ce que vous croyez quand même les deux victimes qui parlent dans le documentaire ?
C'est pas ça. C'est-à-dire que la partie adverse dit, ils disent ça pour avoir de l'argent. C'est le seul contre-argument, en gros, qui existe chez les Jackson. Mmh. Et même s'ils touchent pas les enfants, j'estime que quelqu'un qui est obsédé et qui veut dormir à tout près avec des enfants pendant des années, déjà, il y a un truc qui est pas net, quoi. Enfin,
c'est... Ouais, juste une chose par rapport à l'argent. Et ça, le réalisateur du documentaire l'a très bien dit sur le plateau qui a suivi la diffusion du doc, c'est que, de toute façon, là, ils ne sont pas payés, ils ne touchent aucun argent.
Je parlais d'avant.
Mais là, s'ils gagnent, effectivement, parce qu'il y aura un procès qui va avoir lieu cet été. S'il gagne, alors je ne sais plus à combien est estimé la somme, là c'est un milliard, il demande un milliard, un truc comme ça.
C'est une somme incroyable. De millions,
voilà. Et bien, c'est-à-dire, s'il gagne, ils vont toucher cette somme-là. Mais après, s'il gagne, ça veut dire qu'ils ont subi tout ce qu'ils disent. Donc c'est normal qu'ils touchent cette somme.
Oui, sauf qu'en même temps, moi je suis convaincu que si les plaignants à l'époque n'avaient pas demandé d'argent, Michael Jackson aurait été en prison. C'est parce qu'ils en ont demandé que la partie adverse a dit « Regardez ce qui leur intéresse, c'est le pognon. » Et du coup, c'était mort. Ça a été un procès à l'américaine, quoi, avec des gros trucs, de l'argent, machin. Et ça, on a noyé complètement le poisson. S'ils avaient demandé $1 de dommages intérêts, quelque chose,
oui,
Michael Jackson aurait fait la prison.
C'est la mentalité américaine. Clairement. C'est pas
ben ouais, mais ça ne fonctionne pas.
Alors, suite aux récentes révélations sur Michael Jackson, c'est un monde qui s'effondre pour ses fans tout de même. Le reporter Clément Hugo de Combini est parti à Neverland, l'ancien parc d'attractions du roi de la pop, aujourd'hui en déshérence. Un reportage exceptionnel.
Neverland est d'habitude une ville fantôme dont l'accès est interdit aux journalistes. Mais pour une raison qui m'échappe encore, le gardien du parc a accepté de me recevoir, moi, Clément Hugo. Rufus, pourquoi m'avoir laissé entrer? Est-ce en raison de mon talent ou de la perfection de mon visage? J'aimerais comprendre.
Oh non. C'est que Neverland restera toujours un endroit pour les enfants comme Michael et comme toi.
Mais je suis un adulte en fait.
Tu viens pas faire un reportage pour un journal de l'école?
Mais bien sûr que non, j'ai 30 ans.
Ta maman te nourrissait bien quand t'étais petit? Parce qu'on dirait que t'as manqué de vitamine D. Hein.
Laissez tomber Rufus. Neverland, du temps de Michael, c'était quoi en fait?
C'était un parc comme les autres. Hein. Là, il y a le stand de chamboule-touche pipi et là, le fameux train aux vêtements fantômes.
Alors je lis sur le panneau de sécurité que pour entrer, il faut mesurer plus d'1m30 et retirer tous ses vêtements.
Oui, la sécurité c'était essentiel pour Michael. Là, c'est les autotripoteuses, tamponneuses.
C'est bizarre, je vois pas d'auto.
Trop dangereux. Michael préférait qu'on se rentre dedans directement.
Comme vous le voyez, David, il s'agit d'un parc d'attractions, tout ce qu'il y a de plus normal. Et alors, devant moi, vient d'apparaître un camion à glace qui est tenu par une créature dont la peau semble n'avoir jamais été exposée à la lumière du soleil.
Ah, c'est Macaulay Culkin, t'as de la chance, d'habitude il sort jamais aussitôt.
Rufus, vous croyez que je pourrais avoir une glace?
Macaulay, mets une chocopistache pour le petit avec ton ingrédient secret.
Un peu d'amour, c'est ça?
Non, non, du GHB en poudre.
Du GHB? Mais vous êtes complètement timbré ou quoi?
Pas du gros mot à Neverland, sinon fessé.
Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça, je suis journaliste chez Combini. Et... Ah oui, elle est très bonne quand même.
Oui, tu as raison, t'es bien mon Clément, bravo, t'es un vrai journaliste, très intègre. Mais d'abord, mange ta glace, voilà, comme ça, puis on ira faire un petit tour dans la grande roue.
Quand j'étais enfant, il m'est arrivé de trouver injuste de n'avoir jamais été sollicité par Michael. Moi, qui étais déjà si mignon et si remarquable à l'époque. Aujourd'hui, David, la vexation est passée car je sais que si Michael était vivant, alors il serait monté dans cette grande roue avec moi. C'était Clément Hugo, pour Combini. Et sérieusement.
Merci beaucoup Clément. Alors, on continue toujours en compagnie de Marie-Aldine Girard, de Mathieu Alterman et de Schkid. On a parlé de vos souvenirs de Michael et de la déception en tout cas de certains d'entre vous aujourd'hui. Du coup, j'ai envie de poser la question, est-ce que c'est encore moral aujourd'hui de faire du moonwalk en chaussettes et de se déhancher devant un miroir en mettant la main sur sa bite comme Michael Jackson? Schkid.
Je vois pas trop le problème en fait, mais je me posais la question en venant, je me demandais si on apprenait tous que le mec qui a inventé la chaise était super raciste et il molestait des femmes, est-ce qu'on serait tous assis par terre?
Je me lève immédiatement de cette chaise.
Il faut laisser aux gens le choix d'être libres de déterminer leur morale par rapport à ça. Je comprends qu'il y ait des gens qui puissent écouter Billie Jean et le ressentir mal par rapport à des expériences personnelles et par rapport à ce que ça représente Michael Jackson maintenant. Mais il y a des gens, juste ils écoutent Billie Jean, ils sont contents parce que ça leur évoque, je sais pas, leur mariage, une première danse, un premier baiser. Je pense qu'il faut pas donner l'impression que les auditeurs sont stupides. Ils sont aussi titulaires d'un sens moral.
Alors, Mathieu Alterman, vous avez dit, donc, vous, ce que vous aimiez bien, c'était la période pré-Dangerous, quoi.
Ouais.
Alors, admettons qu'on parle de la période post-Dangerous, pour bien qu'on soit clair. Est-ce que c'est bah, la même question morale de se trémousser sur Do You Remember, par exemple,
ah,
et
oui.
de faire un comme ça dessus?
Non, mais de toute façon, si on n'écoute plus Michael Jackson à cause de ses accusations, on va arrêter de lire Platon et Socrate, parce qu'il y avait eu des plaintes à l'époque, hein, je peux vous dire. Donc, non, de toute façon, il faut toujours faire le distinguo entre l'homme et l'œuvre, à condition qu'il n'y ait pas un truc qui pue dans l'œuvre. Vous savez, c'est comme Céline. On peut lire Voyage c'est... au bout de la nuit, c'est génial, mais il ne faut pas lire Bagatelle pour un massacre. Voilà, c'est tout.
Marie-Aldine Girard.
Moi, là-dessus, je suis totalement d'accord. Moi, j'essaye vraiment de faire voilà, une différence entre les deux. D'autant que c'est vrai qu'il y a plusieurs stations de radio qui ont décidé donc, de cesser de diffuser les chansons de Michael Jackson. Il y a...
Radio Classique a arrêté. Bah, tout de suite, ils ont dit
jamais. Beaucoup de pays, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, j'ai vu ça. Il y a aussi des spectacles d'hommage à Michael là, qui ont été repoussés. Moi, je suis totalement pour... Voilà, que ce soit diffusé, que ces spectacles aient lieu. Après, c'est à la discrétion de chacun. Moi, je sais que pour le moment, j'ai un deuil à faire en tant que fan. Je suis quand même foncièrement meurtrie par ce que j'ai vu dans ce documentaire. Moi, ça ne m'a pas juste interpellée, ça m'a profondément touchée et choquée.
Les gens sont choqués parce qu'ils ont l'impression de s'être trompés en disant « Merde, on l'a défendu pendant longtemps
voilà.
et finalement, est-ce que les autres n'avaient pas... » C'est ça, en fait, on a l'impression d'être cocu des années après. En fait, c'est un peu ça.
Je suis très d'accord avec ça, le cocufiage de la vérité.
Ouais.
Alors, vous avez cité Céline, Mathieu Alterman. On se demande s'il n'y a pas quand même une petite différence avec Michael Jackson, dans le sens, on peut soutenir pour Céline que l'antisémitisme, c'est un aspect parmi d'autres de son œuvre.
Chanson,
alors que
il a pas sorti un seul disque, oui, on n'écoute plus rien
dans cette enfin, très franchement, donc c'est donc l'antisémitisme c'est vraiment un aspect secondaire dans l'œuvre de Céline, on pourrait dire c'est un aspect parmi d'autres, alors que l'enfance c'est quand même au cœur de l'œuvre de Michael Jackson, et même plus que ça, c'est qu'il s'est servi de son image de mec qui aime les enfants pour en quelque sorte les attirer et abuser d'eux. Donc il n'y a pas une différence entre Céline et Michael Jackson.
Pour moi, le pire, c'est même pas ça, c'est que tous les gens disent qu'ils défendent, notamment Yann Moix, j'étais très choqué parce qu'il y a Yann Moix, et pourtant j'aime beaucoup Yann, s'il a dit Michael Jackson était un enfant, donc il ne pouvait pas être pédophile. Alors on va.
Non, il allait plus loin. Il a même dit qu'il était prêt à faire un procès à toute femme qui avait abusé de cet enfant, c'est-à-dire qu'il y avait eu des relations sexuelles avec Michael Jackson.
Alors moi, je voudrais juste rappeler quelque chose, peut-être les gens ne sont pas au courant, mais on ne peut pas être une star mondiale et être un enfant. Ça n'existe pas, c'est de la science-fiction. C'est impossible.
C'est quoi, Jordi? On en fait quoi, Jordi?
Vous ne pouvez pas avoir autant de responsabilités, ça n'existe pas. Je veux dire, Michael Jackson, quand il enregistre Thriller, c'est un adulte très malin qui, au contraire, va tenir tête à Quincy Jones et c'est tout sauf un enfant. Donc arrêtons de dire que c'était un enfant, pas du tout. C'était un manipulateur, absolument, qui avait une bibliothèque, fan de gothique, du Mime Marceau, de Bela Lugosi, pas du tout un enfant.
Qui, dans la foulée, enfile Paul McCartney sur les droits de ses disques.
Il a racheté les éditions. C'est-à-dire que McCartney lui a dit tu devrais investir ton argent dans l'achat d'éditions. Et il lui a dit ah bah, je vais faire un truc, je vais acheter tes éditions. Et il croyait qu'il déconnait l'autre.
Et juste une dernière chose, c'est juste pour finir sur Yann Moix, parce qu'il dit que le seul orgasme qu'avait eu Michael Jackson, c'était devant je ne sais plus quel dessin animé pour montrer qu'il n'avait jamais eu d'orgasme. Mm-hmm. Alors qu'une chose est prouvée, qu'on soit fan ou pas,
je l'ai appris,
c'est qu'effectivement, il y a toutes les vidéos porno qui ont été retrouvées chez lui avec les empreintes digitales des enfants. Oui. Je veux dire, ça, on peut pas le nier.
À une époque où c'était cassé de vidéos, c'est compliqué de les avoir, de se les procurer, et c'est pas comme aujourd'hui. Donc il y a quand même.
Si je peux me permettre, ma question, c'était plutôt, il y a une différence avec Céline. C'est-à-dire que c'est pas les enfants, c'est pas un détail pour Michael Jackson.
Voilà, ça fait partie intégrante de son œuvre,
et de son monde.
Mais on parle de Céline Dion depuis tout à l'heure, parce que quel rapport? Parce que René n'est pas très jeune, il était quand même un peu âgé.
Donc, maintenant, elle en est plus jeune.
Donc oui, séparer l'œuvre et l'homme chez Céline, c'est très facile. Est-ce que c'est pas quand même un peu plus dur chez Michael Jackson?
Ah, j'avoue, j'avais pas regardé ça sous cet angle-là, le rapport Jackson et l'enfance. Enfin, je vois pas ça dans Thriller, par exemple.
Mais parce que
c'est une pop idol, quoi. En gros, c'est une star pour des 8 ans, on adore Michael Jackson. Donc, c'est plus embêtant quand on a une influence sur des jeunes que quand on commence à avoir un public de 25-30 ans.
J'entends bien. J'ai l'impression que dans beaucoup des décisions de gens de vouloir annuler des célébrités comme ça, ça va être le cas sur Michael Jackson avec la pédophilie. Ça va être le cas, je sais pas, avec R. Kelly.
Et la pédophilie.
Également. En fait, je vois pas l'intérêt de vouloir annuler ces artistes. J'ai l'impression que pour beaucoup de gens, c'est un peu comme quand, je sais pas, il y a une image qui passe sur Internet et on vous dit partagez pour arrêter la famine dans le monde. En fait, vous en foutez de la famine dans le monde. C'est facile de dire ah, je suis contre la pédophilie parce que j'ai arrêté d'écouter Michael Jackson. En fait, si vous êtes vraiment contre la pédophilie, il y a plein de choses que vous pouvez faire.
Plutôt que d'arrêter de lire Michael Jackson.
Qui est une action, en fait, c'est assez facile et ça change rien.
T'es en train de me dire que tous les likes que je fais sur Facebook ne servent à rien depuis 15 ans.
J'en ai peur.
C'est un monde d'illusions qui s'est
suivi avec des révélations. Et voilà.
Mais du coup, est-ce que vous seriez prêt à pardonner, par exemple, à Émile Louis ou à Guy Georges s'il sortait un très très bon album comme
Thriller? Écoute, moi-même, je trouve que les talents d'Hitler en tant que peintre.
Et ça y est, on l'attendait, le point Godwin de l'émission.
Mais écoutez, tu fais une erreur et voilà, ça et y est, voilà, le tribunal fini, médiatique ne parle jamais
erreur, le troisième
de son
Reich,
talent en tant que peintre. Alors que non, c'est vrai qu'il avait quand même son petit talent, il faut le savoir.
C'est ça, j'imagine aussi Marc Dutroux, par exemple, si on apprenait qu'il avait fait des très très bonnes aquarelles. Que ce serait OK d'accrocher des aquarelles de Marc Dutroux?
Non, il faisait des très bons alcools. C'était du 8 ans d'âge, dont 50 caves.
Après, je pense que ça dépend vraiment aussi de ce qu'ils ont fait. Moi, comme on l'a dit tout à l'heure, moi, je distingue vraiment les deux, mais après, c'est très personnel. Mm-hmm. Même si je m'oppose, par exemple, aux idées de Dieudonné, ça reste pour moi le plus grand génie humoriste de notre génération.
Je ne peux pas dire génie non plus.
Après, je m'oppose totalement. Et en plus, je combats son mode de pensée. Pareil pour Woody Allen, je ne supporte pas la façon dont il a mené sa vie, on va dire, mais qui ne me regarde pas, mais qui est répréhensible.
Sachant que dans le cas de Woody Allen, il était ultra blanchi.
Ultra blanchi, il a épousé sa fille adoptive.
Non, il n'a pas épousé sa fille adoptive, il a épousé la fille adoptive de sa femme qu'il n'a jamais élevée.
Bref.
Elle a dit oui. Enfin, il y a un moment, bon.
Bon, bref. Oui, et les petits garçons, ils avaient dit oui aussi avec Michael.
C'est pas pareil. Non.
Bon, de toute façon, c'est juste pour dire que voilà, à chacun a des niveaux différents.
Surtout pourquoi on s'ennuie avec tous ces artistes. Moi, il y a un gars qui s'appelle Michel Sardou, c'est un gars sûr, il a jamais fait d'erreur, ses chansons sont d'enfer, il joue vachement bien dans ses films, on peut le voir au théâtre, voilà, Michel Sardou, forever.
Et niveau moonwalk, je suis sûr qu'il est pas le dernier.
Ouais.
Bon, alors, vous savez, chez Deezer, nous, on aime vraiment toujours autant l'argent, surtout quand il s'agit d'argent un peu sale. Alors, voici une page de pub.
Bonjour, bonjour les enfants, c'est Christophe Castaner. Vous en avez marre de jouer aux gendarmes et aux voleurs? Alors découvrez le LBD Kids et jouez à défendre la démocratie.
Et descendre la balançoire en fuyant le gilet jaune.
Ah, il monte le vocule.
Mais non, pas dans les yeux, petit coquin.
Faites gaffe, il y a Éric Drouet derrière le toboggan.
Mais non, c'est moi, Éric Drouet. Corentin, c'est Maxime Nicole, il est roux comme lui.
Allez, on s'en fout, feu, go, go, go.
Ça vous arrive de vous sentir paumé? Découvrez Monique, le premier GPS moralisateur qui vous donne la bonne direction et de petits conseils de vie.
Dans 50 mètres, itinéraire plus court pour passer plus de temps avec votre famille.
Marre de louper tous les embranchements de votre vie?
La bonne sortie est à droite, mais qu'importe car vous allez dans le mur.
Grâce au GPS Monique, trouvez le chemin et votre épanouissement personnel.
Vous êtes arrivé à destination. Vous pouvez descendre et terminer à pied pour perdre du poids et redevenir séduisant aux yeux de votre femme.
Vous êtes fan de Michael Jackson, mais vous êtes parfois mal à l'aise en écoutant ses paroles? Découvrez le Michael Filter, le premier filtre audio permettant d'écouter le King of Pop sans aucun texte ambigu. Michael Filter, une exclusivité Deezer.
Ce serait bien aussi un Jules Filter, peut-être pour pouvoir profiter de la musique de Jules sans les fautes de grammaire. Ce serait assez sympa, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Ce serait sympa.
Un désaccord total.
Alors, il y a quelque chose.
Oh, c'est Jules, c'est Jules.
C'est Jules, oui. Pardon. C'est Jules Lovie.
Je sais que je ne voyais pas du tout de qui tu parlais.
Moi, j'aime beaucoup
comme un daron.
Aussi, je suis d'accord avec toi. Ah, enfin, quelqu'un de goût ici. Voilà.
Il y a quelque chose qu'on a un peu laissé de côté ici, même si on en a un tout petit peu parlé, c'est que jusqu'à présent, Michael Jackson n'a jamais été condamné par la justice et qu'il y a quand même un principe général qui dit que les gens sont innocents tant qu'ils n'ont pas été déclarés coupables. Mais il y a aussi cet autre principe qui dit que c'est quand même une bonne idée d'écouter les victimes d'abus sexuels quand elles parlent, parce que statistiquement, c'est quand même rare qu'elles mentent. Vous l'avez dit, Marie-Aldine Gérard, un peu tout à l'heure, on est quand même un peu tous coupables de ne pas avoir assez écouté les victimes présumées de Michael Jackson.
Ah oui. Et c'est pour ça que moi, je fais mon mea culpa aujourd'hui, vraiment. Et puis surtout que j'ai été la première, avec mes amis, à essayer de le défendre. Et aujourd'hui, je me dis, mais en fait, ces gens-là, on ne les a pas écoutés, on les a traînés dans la boue, on les traîne encore dans la boue. Et puis on dit, mais pourquoi les autres ne parlent pas? Mais pourquoi ils parleraient quand vous voyez les réactions, la haine qui se déchaîne?
Parce que c'est les fans.
Mais tu as raison.
C'est les fans, c'est fanatique, pas... c'est des maboules. Mais ce qui est intéressant, c'est que les fans sont offusqués, mais ils n'ont pas accès au dossier. Quoi. Donc il y a un moment, leur avis vaut ce qu'il vaut.
C'est comme le nôtre. Hein.
Ouais, je pense que c'est pas que les fans. En fait, je pense que je comprends pas pourquoi on attend de gens qui sont juste des consommateurs et des auditeurs d'être des spécialistes de justice, de questions de société, de psychologie. En fait, les gens juste, ils ont envie de passer un bon moment. Ils passent une journée très longue au travail, ils rentrent chez eux, il y a une chanson qui est bien. C'est terrible en plus de leur imposer, de leur dire, c'est à vous de faire le choix. Alors qu'il y a plein de gens qui auraient pu faire le choix pour nous jusque-là. En fait, il y a des gens en maison de disques qui produisent des albums, il y a des gens dans des studios, il y a des gens qui font de la promotion de cette musique qui pourraient être garants de la moralité des choses qu'on consomme. En fait, eux, ils ne l'ont pas fait.
Ils pourraient faire un label rouge du disque. En
fait. Moi, je suis très surpris que personne n'ait fait ça jusqu'ici, parce que ça a l'air d'être la question centrale. Le premier mec qui va faire une plateforme de streaming éco-responsable où on n'écoute que de la musique... moral, il va faire plein d'argent. Bah, c'est affreux, mais c'est
sans drogue,
mais...
sans alcool, sans rien. Résultat, on va écouter du Yves Duteil toute la journée. Ouais. Ça va être compliqué.
Et ceci, prendre un enfant par la main. C'est pas faux.
Alors aujourd'hui encore, même après le documentaire, il y a plein de gens qui défendent Michael Jackson. Hein, on l'a vu. Et l'un d'entre eux, c'est Hector Barjot, et on l'a appelé au téléphone. Hector, vous nous entendez?
Oui, je vous entends bien. Bonjour.
Oui. Alors, vous êtes un énorme fan de Michael Jackson depuis 30 ans. Vous collectionnez tout sur lui. Vous êtes intervenu dans le débat qui a suivi la diffusion du documentaire sur M6. Et donc, vous défendez Michael Jackson encore?
Bah, je défends Michael Jackson. Alors, bonjour à tous. Hein, je
connais
pas les personnes sur le plateau, mais je le défends oui et non. Ce que je défends surtout, c'est la méthode employée qui tente à rendre coupable Michael Jackson par tous les moyens. C'est surtout ça, moi, qui me choque et qui choque les fans. Les fans sont pas tous justement des maboules à défendre bec et ongles. Voilà, il y a un moment donné, il y a des choses qui sont indéfendables. Donc, les fans sont comme vous. Hein, on est tous des parents, des enfants. Enfin, voilà, ça nous touche aussi.
Et donc vous, qu'est-ce que vous avez ressenti vous-même en tant que fan presque professionnel, on pourrait dire, de Michael Jackson?
Ce que j'ai ressenti, c'est que, enfin, ce que je voulais entendre, j'ai pris vos conversations en cours de route, mais
oui.
Vous dites tous qu'on aurait dû faire quelque chose bien avant, mais moi, je voudrais vous demander qu'est-ce qui a changé depuis le documentaire. Qu'est-ce qu'il y a eu de plus, de preuves, de choses qui... Voilà, c'est quelque chose qui est connu, les faits sont là depuis des années, il y a eu un procès, il y a eu plusieurs procès, enfin, et il n'en est rien ressorti. Donc moi, ce qui me choque, c'est le fait de faire un documentaire à charge. Aujourd'hui, on peut arriver avec un documentaire, filmer des gens pendant 4 heures, faire des montages, et au final, tout le monde plonge dans ce qui est montré.
Ouais, bah disons qu'il y avait eu plein de documentaires, enfin, jusqu'à présent, on pourrait dire que ça prenait le contre-pied de beaucoup de choses qui avaient été dites avant. Donc précisément, en fait, maintenant, ce qu'il s'agissait, c'est de donner la parole aux victimes.
Ah oui, oui, présumé victime, oui, tout à fait. Mais en fait, le problème, c'est qu'on joue sur les deux tableaux. C'est que d'un côté, je suis d'accord, il faut écouter des victimes, et je pense qu'il faut, oui, bien sûr, la parole aux vraies victimes avérées. Et pour moi, ce documentaire fait pas du tout bien aux victimes de pédophilie, puisque, comme l'a dit votre invité, la personne sur le plateau, c'est qu'effectivement, les victimes ont la pression, et avec un documentaire comme ça, on voit bien les réactions violentes qu'il y a envers ces deux personnes. Ça va pas inciter les gens à parler, quoi.
Alors, il y a Mathieu Alterman qui voudrait réagir.
Bonjour. Moi, je comprends ce que vous dites sur la méthode. Moi aussi, ça m'a choqué parce que c'est uniquement à charge. Le problème, c'est que c'est réalisé par un type qui a fait un documentaire sur Whitney Houston qui était remarquable et c'est diffusé par HBO. C'est pas NRJ 12. Donc, les gens qui diffusent, c'est quand même super clean et haut de gamme. Donc, il n'y a pas un truc qui pue dans le canal, vous voyez? Donc, c'est ça qui est embêtant.
Oui, enfin bon, oui. Bon, après, on va pas parler de complot, hein, mais bon, oui, HBO, Oprah Winfrey, proche de Weinstein, enfin bon, on peut aussi parler du sérieux du documentaire. Hein,
mais donc, ce que vous auriez voulu pour qu'il soit plus sérieux, le documentaire, c'est qu'on donne parole au Michael Jackson Estate, enfin aux héritiers de Michael Jackson.
Ce qui aurait été bien, c'est déjà de mettre tous les faits en lumière. C'est juste ça. C'est qu'après, on peut accuser, de toute façon, moi, en tant que fan, comme beaucoup de fans, hein. Moi, j'étais au collège en 93, donc j'ai fait toute ma vie de fan avec cette image de Michael Jackson pédophile. Donc, c'est pas ça qui me choque, quoi, de l'accuser de pédophilie. Non, ce qui me choque surtout, c'est oui, effectivement, mettre que deux personnes en lumière, et en plus, il y a quand même beaucoup de faits qui sont remis en question. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne collent pas, il y a beaucoup d'incohérences dans leurs propos. Donc oui, je suis désolé. Il faut vraiment donner tous les points de vue avant de juger.
Alors dernière question avant de finir. Moi, j'ai parlé de mon cas personnel qui est que j'ai écouté des chansons de Michael Jackson depuis que j'ai vu le documentaire et que maintenant l'impression que ça me donne est plus tout à fait aussi pure. Est-ce que vous avez la même chose quand vous écoutez par exemple Beat It ou
Non, pour le moment non, puisque je vous dis pour moi il n'y a pas de nouveaux éléments qui se rajoutent à ce qu'il y avait déjà eu. Donc pour moi ça ne change rien du tout. Quoi. Après je vous dis. S'il y a plus de gens qui se disent victimes de Michael Jackson, parce que vous dites que les gens ont peur, enfin, il y a des gens, Michael King, par exemple, aux États-Unis, est quand même assez connu, il peut très bien dire que Michael Jackson a abusé, quoi. Genre, s'il y a plusieurs personnes qui commencent vraiment à dire tous la même chose, effectivement. Mais là, on a quand même des gens, je vous dis, ces deux accusateurs ont un passé un peu limite, ils ont changé plusieurs fois de version. Ils ont quand même pas mal de casseroles. Bon, c'est pas pour ça que ce sont pas des victimes. On peut être victime et avoir des casseroles. Je suis d'accord. Mais bon, voilà. On peut quand même s'interroger, quoi. Donc voilà.
Hector Bergeau, merci beaucoup de nous avoir parlé.
Merci à vous.
Et on vous souhaite une bonne journée.
Merci vous aussi. Au revoir.
Alors le documentaire sur Michael Jackson, il sort aussi après MeToo, hein, un moment où on prend conscience qu'il y a beaucoup de gens puissants qui font des choses sexuelles pas bien, quoi. Et la tolérance pour leurs écarts, elle a tendance à quand même diminuer. On l'a vu avec Weinstein, mais aussi on a vu avec Kevin Spacey, avec R. Kelly, etc. Est-ce que vous croyez que c'est possible de faire des gens puissants des justiciables comme les autres, Shkid?
J'espère, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent mal, parce que dans de nombreux cas, ces personnes-là sont jamais jugées, et du coup on a l'impression que c'est à nous de faire la décision de justice, parce que dans le cas d'R. Kelly, je pense que c'est un bon exemple, je pense qu'il a commis les choses pour lesquelles il est accusé, j'espère que ça va mener à des vraies décisions juridiques, puisque comme ça, je pense qu'il y a plein de gens qui se sentiront un peu moins coupables d'écouter sa musique, parce qu'il y aura des vraies décisions de justice qui ont été faites. Souvent, je pense effectivement, dans le cas de ces puissants, que ce soit vrai ou pas, que ce soit des complots ou pas, on a l'impression que qu'il n'y a rien qui va être fait. Je pense que c'est ça qui nous donne cette sorte d'instinct de justicier à prendre des décisions à la place de la justice.
Marie-Hélène Girard ?
Il faut que ce soit des justiciables comme les autres. Mais il ne faut pas non plus que ce soit plus que les autres. Moi, tout à l'heure, on a parlé de Kevin Spacey. Revenir à l'époque stalinienne et effacer la personne de la photo, ce n'est pas possible. Effacer Kevin Spacey du film...
De Usual Suspect, ça ferait quand même bizarre.
Mais il était dans un film, donc il a commencé à tourner, je ne sais plus...
Dans le film de Ridley Scott.
Merci.
Qui était fini de tourner, d'ailleurs.
Qui était fini de tourner. Et on l'a effacé des scènes. Pour moi, c'est la pire chose qu'on puisse faire. Ça n'a pas lieu d'être.
Alors, je suis tout à fait d'accord, évidemment.
évidemment, moi, j'ai juste un bémol. J'aimerais bien que, en France, on fasse un peu le ménage, parce que MeToo, ça a fonctionné aux États-Unis, il y a plein de choses. Et puis en France, personne quasiment n'a été inquiété, alors qu'on on va pas dire à l'antenne, mais hors antenne, on connaît tous des noms de gens qui n'ont absolument rien. Aucun. Et j'en ai même vu dans des plateaux télé qui étaient mouillés dans les histoires, qui donnaient des leçons sur le sujet. Ouais. C'est donc moi, j'attends.
Bah, faut donner les noms.
Ah, non, mais bon, on va
commencer par là.
Peut-être un jour après, nettoyer,
je suis assez d'accord que. Moi, je suis assez mal à l'aise sur ces questions qui concernent des icônes qui certes sont mondiales, mais qui sont, enfin, c'est pas mon pays. On pourrait avoir les mêmes conversations autour de questions qui traitent de Claude François, par exemple. Mm-hmm. Mais on va moins se faire cette introspection dans notre pays. C'est plus simple, en fait, d'aller taper sur la grosse star américaine et de donner son avis sur quelque chose où on a l'impression que notre avis compte. En fait, notre avis compte pas. Enfin, moi, je trouve qu'on n'est pas coupable parce que j'ai pas l'impression qu'il y a plus de gens qui ont été écoutés d'autres victimes de pédophilie après l'affaire Michael Jackson. Juste, ils donnent leur avis sur cette affaire où c'est facile d'être.
Faudrait un pédophile dans la variété française, quoi. C'est ça, en fait.
Oh, il y en a tellement.
Alors, on l'a vu quand même, la parole des victimes se libère. Les prédateurs sexuels célèbres sont de plus en plus souvent rattrapés par leurs agissements. Nous sommes partis à la rencontre de l'un d'entre eux pour découvrir la vie dans l'après-MeToo. Reportage.
Doug Johnson, vous êtes un ancien producteur. Aujourd'hui, vous avez perdu votre emploi, votre réputation, votre dignité de prédateur vedette. Que s'est-il passé?
C'est si bête. J'ai été séduit par une actrice qui m'a fait croire qu'elle avait 30 ans, alors qu'elle en avait 14. Et puis, j'ai fait l'erreur d'offrir des photos de mon scrotum à une petite centaine de collaboratrices.
Depuis votre jugement, la machine médiatique vous poursuit. La vie est devenue difficile et là, vous fouillez les poubelles pour trouver les restes d'un catering. C'est ça?
C'est comme ça que je fais pour survivre. Mais là, il n'y a plus rien du tout. Maria Carey a fait le tour du quartier il y a une heure.
La situation des prédateurs sexuels célèbres est en effet de plus en plus précaire aux États-Unis.
On n'a plus le droit de travailler et sur Twitter, on doit porter une petite étoile collée à notre pseudo pour signifier aux femmes de ne pas ouvrir nos messages privés. D'ailleurs, vous n'avez pas vers le mien.
Non, en effet, je le fais de suite et... Oh, c'est encore une photo de votre scrotum.
Surprise!
Petit à petit, la résistance se met en place et Doug a pu rejoindre une filière clandestine qui va l'exfiltrer en France où les prédateurs célèbres sont protégés par la Constitution. 15 jours plus tard, Doug arrive au port du Havre. Un homme l'attend sur le quai avec une pancarte.
Oh my god, c'est Luc Besson.
Eh oui, c'est moi.
C'est un honneur, j'ai vu tous vos castings, toutes les rumeurs de harcèlement.
Dis mon vieux, qui est cette divine créature qui t'accompagne? Une très jeune comédienne qui cherche un rôle majeur dans mon prochain film?
Non, c'est une journaliste qui m'accompagne.
J'adore les journalistes. On parlera de tout ça dans le taxi. Vous nous accompagnez, très chère madame?
Ça aurait été avec plaisir, mais je dois...
Ça n'était pas une question. Allez hop! Ça monte dans le coffre.
Non mais, laissez-moi. T'es au secours. Ah!
Bienvenue en France, mon Doug. T'es ici, chez toi.
C'est vraiment la patrie des droits de l'homme dominant.
France will always be France, hein. Ouais. C'est le moment de s'amuser pour terminer cette émission. Comme à son habitude, Thomas Croisière vous a concocté un petit jeu.
C'est pas vrai.
C'est le jeu de Thomas Croisière. Le jeu de Thomas Croisière.
Voilà. C'est vrai qu'il est un peu long. Bref, il n'y a pas que les enfants qui ont les chansons de Michael bien en bouche. Seul problème pour nous, Français, qui avons déjà du mal à suivre un épisode de Grey's Anatomy en version originale sous-titrée, c'est que souvent on chante n'importe quoi, saupoudré de hi-hi et de ha. Nous allons donc jouer à Michel Jacques-Fils, un blind test de chansons de Michael Jackson en français. Vous êtes prêts? Vous allez devoir reconnaître la chanson. Le vœu qui fait que ça arrive, ça ne pose aucune question. Oh, alors viens plus près de mon corps, maintenant, juste aime-moi, jusqu'à ce que tu ne saches plus comment.
Ton stop, il y a des neufs, machin.
Très bonne réponse de Mathieu Alterman.
Ouais, j'ai pas compris vraiment.
Oui, Don't Stop, Till You Get Enough, je m'en rappelle plus.
C'était effectivement Don't Stop,
Don't Stop
Till You Get Enough, qui signifie ne t'arrête pas jusqu'à ce que tu en aies assez. S'adressait-il à des enfants en disant cela? Et que faisaient ces enfants?
Je
ne préfère pas y penser. On passe à un autre titre dans lequel il parle visiblement des parents de son petit ami. Ils sont dehors, en train de t'attendre. Tu ferais mieux de filer pendant que tu le peux. Tu ne veux pas être un petit garçon, tu veux être un homme. Tu ne veux pas crever, alors fais tout ce que tu peux.
C'est Beat It très...
C'est Beat It.
Oh là là, bravo.
Est-ce que sur Beat It, ça vaut quelque chose que je fasse un jeu de mots ou on va se dire...
ouais,
le titre parle de lui-même, ça sert à rien. Alors ensuite, c'est un énorme tube. Et là, je ne parle pas de son Beat It. J'ai pris mon bébé pour mon bang du samedi. Mec, est-ce que cette fille est avec toi? Oui.
Black or White?
Oui, nous sommes un et nous sommes le même.
Black or White, deuxième point de Mathieu Alterman. Qui a écouté Michael Jackson après 1987, manifestement. Le mec est en totale contradiction avec lui-même.
J'ai écouté, j'ai pas aimé.
Oui, mais ce qui est quand même très important, c'est que là, Michael nous explique que ce n'est pas important que l'on soit noir ou blanc, tant que l'on est mineur. Pour finir, un morceau prophétique. Et ma mère m'a toujours dit, fais attention à qui tu aimes. Eh oui. Et ma mère m'a toujours dit, fais attention à qui tu aimes et fais attention à ce que tu fais, parce que le mensonge peut devenir vérité. Ces paroles sont donc très prophétiques, titre de 1982. Et nous avons donc deux gagnants ex aequo avec deux points, ce sont les deux hommes. C'est normal, les femmes ne peuvent jamais gagner. Vous remportez un CD de Michael, mais Michael Sardou, parce que la vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant, en chantant.
Merci beaucoup Thomas, c'était un moment radiophonique de qualité moyenne, hein, ce qui pour vous est,
voire médiocre.
Est déjà très très bien. Hein, c'est... Voilà, SMT, c'est déjà terminé. Merci à nos invités du jour. Merci à Franck, notre réalisateur, qui par esprit professionnel a dû quitter une after-party alors qu'il venait tout juste d'acheter un gramme de kétamine. Merci surtout aux auditeurs fictifs rémunérés au clic qui nous permettent de gonfler les audiences de l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est grâce au bouche à oreille que de petites entreprises comme Deezer peuvent se faire connaître. Allez, bisous.
Originals.